Cette scène s'est déroulée hier matin à Hong Kong. La police sonne à la porte d'un militant pro-démocratie.
Vous êtes suspecté d'être impliqué dans un acte de subversion en violation de la loi de sécurité nationale.
Un porte-à-porte qui s'est soldé par l'arrestation de plusieurs dizaines de parlementaires et de militants, dont cet avocat américain. Tous sont accusés d'avoir organisé des primaires de l'opposition pour désigner des candidats aux prochaines législatives. Une tentative de déstabilisation des autorités de Hong Kong, selon la police.
Ils n'avaient qu'un seul objectif, empêcher le gouvernement de fonctionner normalement. Nos opérations de sécurité vont se poursuivre. Nous continuerons d'arrêter davantage de personnes.
Ce tour de vis sécuritaire est le plus important depuis l'entrée en vigueur l'été dernier de la loi sur la sécurité nationale. Un texte que la Chine a fait passer en force, échaudé par des manifestations monstres contre l'influence grandissante de Pékin dans la province semi-autonome. Depuis hier, les puissances occidentales dénoncent une répression sévère, à commencer par le futur chef de la diplomatie américaine.
L'administration Biden-Harris se tiendra aux côtés du peuple de Hong Kong et contre la répression de la démocratie par Pékin.
Des réactions balayées par la Chine.
Les droits et les libertés ordinaires dont jouissent les habitants de Hong Kong n'ont pas été affectés. Ce qui a pu être affecté, c'est seulement la liberté de certaines forces extérieures et d'individus qui tentent de saper la stabilité et la sécurité de la Chine.
Alors, qui est aujourd'hui en mesure d'empêcher les atteintes à la démocratie à Hong Kong? La nouvelle administration Biden peut-elle changer la donne? L'Union européenne, qui vient de signer un accord commercial avec la Chine, doit-elle prendre des sanctions contre Pékin?
À savoir si les pro-démocrates représentent vraiment la majorité des habitants de Hong Kong. Laurence de Franou, est-ce qu'il y a une division nette dans la population entre ceux qui aspirent en effet à plus de démocratie et ceux qui sont fidèles à Pékin? Et si oui, est-ce qu'il y a un camp majoritaire en termes de nombre?
Alors, il y a une division nette, oui, puisqu'il y a des pro-chinois à Hong Kong. Mais toutes les manifestations qui ont eu lieu durant l'année 2019, qui étaient des manifestations véritablement massives, puisqu'on a vu jusqu'à 1 million de personnes dans les rues, alors qu'Hong Kong compte 7,5 millions d'habitants, montrent qu'il y a un soutien très important au processus démocratique. Donc, cette division existe, mais les élections de 2019, qui étaient des élections partielles, ont montré véritablement un raz-de-marée pour l'opposition démocratique et un attachement de plus en plus fort à l'identité hongkongaise par rapport à une identité.
C'est-à-dire, c'est pas que la jeunesse, c'est pas que les images qu'on peut voir d'une.
Non. Et moi, j'étais l'année dernière à Hong Kong au moment des manifestations et c'était vraiment toutes les familles, toutes les
tranches d'âge, toutes les générations
confondues. Par cette idée, ils sont très très attachés à cette identité hongkongaise et tant que la Chine, tant que Pékin, le pouvoir central, a pu respecter cette identité et le haut degré d'autonomie de Hong Kong, ça s'est bien passé. Mais quand cette identité a été attaquée, il y a vraiment une défense importante.
Alors, et depuis une répression avec un chiffre.
On en parlait 53
hier matin.
La police de Hong Kong a arrêté 53 militants pro-démocratie dans le cadre d'une opération donc sans précédent depuis l'instauration de cette fameuse loi sur la sécurité nationale adoptée en juillet dernier, mise en application le 1er juillet dernier. Mais Bertrand Badi, en fait, cette arrestation massive, c'est la suite de ce qui s'est passé en 2019. On a vu monter cette répression. Rappelez-nous ce qui s'est passé avec cette révolution des parapluies.
Alors, il faudrait d'abord rappeler ce qu'est l'année 2019, c'est-à-dire une année de mobilisation sociale aux quatre coins du monde. Et 2019, malheureusement, est un peu laissé entre parenthèses avec la crise sanitaire que nous vivons, mais ça a été l'année du temps social, c'est-à-dire où les sociétés se sont émancipées des tutelles politiques et... ce phénomène apparaît très clairement autant à Hong Kong qu'à Alger.
Mais en particulier à Hong Kong, alors.
Et en particulier à Hong Kong. Pourquoi? Parce que c'est là, effectivement, que la distance entre la société, les dynamiques sociales et le pouvoir politique est la plus marquée, en tous les cas, dans l'Empire chinois. Et avec quelque chose qui me semble très important, c'est-à-dire la surpolitisation qui a été la carte jouée par Xi Jinping. Mmh. C'est-à-dire que la Chine, sur un temps long, c'est-à-dire finalement depuis la politique d'ouverture de Deng Xiaoping, la fin des années 70, s'ouvrait sur une vision économique et sociale de la Chine et du monde. Et il y a eu une vraie rupture en 2013 avec Xi Jinping, c'est-à-dire une revalorisation du politique. Ce serait intéressant de se demander pourquoi cette revalorisation du politique.
Et vous allez répondre à votre question,
eh bien,
Bertrand Badji, rapidement.
Je crois qu'il faut distinguer l'échelle régionale, où effectivement la Chine a été en situation... De fait de cette politique d'ouverture, de compétition de plus en plus vive avec des voisins redoutables, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, bien entendu, et plus loin derrière les États-Unis, encore présents en Asie au début du 21e siècle. Et donc, il y a eu besoin de réaffirmer cette puissance politique, ce retour aux politiques, eh bien, évidemment, à accuser ce divorce entre le social et le politique et a donné naissance à cette révolution des parapluies que vous signaliez.
Et plus proche de nous, Laurence de Frano, il y a eu des annulations d'élections. Il devait y avoir des élections au mois de septembre. Donc on a l'impression qu'on est rentré sous un régime de dictature, point barre, à l'image de ce qui se passe à Pékin.
Oui, oui. Les institutions démocratiques hongkongaises qui étaient très puissantes, puisqu'on avait une liberté d'expression, une liberté de parole et d'élection. Et là, avec ce qui s'est passé hier, les 53 personnes arrêtées, parce que vous avez 10 militants, mais ce sont des élus, des députés, des anciens députés, des journalistes, c'est des gens très pacifiques, des universitaires, des professeurs de droit. On n'est pas dans un militantisme dur, c'est vraiment juste une société civile. Toutes ces personnes ont été arrêtées parce qu'elles ont participé le 12 juillet dernier à l'organisation de primaires pour les législatives qui devaient avoir lieu en septembre. Et l'organisation de primaires est tout à fait dans la constitution hongkongaise. Et les élections étaient repoussées d'un an sous prétexte de Covid, donc de septembre à septembre prochain. Et là, les arrestations qui ont eu lieu hier sont vraiment des arrestations préventives pour empêcher l'opposition de gagner. Parce que, et le prétexte est totalement extraordinaire, puisque le prétexte, c'est un complot démocratique visant à pousser à la démission la chef de l'exécutif. Et donc ils sont accusés de subversion juste pour avoir en fait continué à faire vivre la démocratie et la critique à Hong Kong. Donc à partir d'aujourd'hui, on voit bien que là, c'est terminé. C'est, si rien ne se passe...
Il n'y a pas d'opposition possible aujourd'hui là-bas.
Et les uns après les autres, depuis six mois, nous avons une vague d'emprisonnement sur la loi sur la sécurité nationale, punie de 3 ans minimum à perpétuité de prison, toute personne qui porte atteinte à la sécurité nationale, sous prétexte de subversion ou terrorisme. En fait, les termes sont si vagues et si larges que même un simple slogan, un drapeau blanc, un programme scolaire, un tweet, peut suffire à être condamné. Et on a vu déjà des dizaines de condamnations.
Bertrand Badi, qui peut arrêter la Chine? C'était écrit, en fait, cette nouvelle séquence depuis la rétrocession en 1997 par la Grande-Bretagne. On savait très bien que la Chine n'allait pas respecter ses engagements.
Je crois que c'est une question aussi de modulation. C'est-à-dire que la Chine aurait pu continuer à jouer la carte qui était la sienne au départ, c'est-à-dire un pays de système. Il y a un moment où la notion de deux systèmes n'était plus véritablement digérable par le système chinois.
Mais pour quelle raison? Pourquoi c'est devenu insupportable d'un seul coup?
Eh bien, parce que on vit donc depuis 2013 ce retour du politique et Xi Jinping vit dans l'obsession, je dirais, contre Gorbatchevienne. Gorbatchev a perdu parce qu'il a libéralisé politiquement sans libéraliser économiquement. Le pari chinois, c'est de libéraliser économiquement sans libéraliser politiquement pour garder le pouvoir. Cet équilibre, il était possible dans la phase de croissance et de développement de la Chine, lorsque la Chine pouvait dire sans honte « je suis un pays en développement ». Maintenant qu'elle est arrivée à ce fameux palier, effectivement, il y a un retour du mythe de la puissance et un retour qui est redoutable, qui se traduit par une identitarisation de la politique chinoise qui se fait au détriment des Ouïghours comme au détriment de Hong Kong.
2021 marque le centenaire du Parti communiste chinois. Est-ce qu'il y a là aussi un enjeu symbolique et politique très fort? Il s'agit de serrer la vis oui. pour réaffirmer la toute-puissance.
Il faut réaffirmer la puissance, et c'est vraiment une obsession de Xi Jinping d'affirmer la puissance nationaliste, mm-hmm. c'est-à-dire de mater toutes les périphéries qui ont longtemps bénéficié d'une certaine autonomie, que ce soit au Xinjiang, au Mongolie intérieure. C'est mater les périphéries, mettre tout le monde dans la même identité, comme disait Bertrand Badie, et aussi développer le nationalisme pour créer un ennemi extérieur, pour que toute la nation soit unie vers les ennemis envers les ennemis extérieurs. Parce que l'économie chinoise souffre quand même un petit peu de la guerre commerciale avec les États-Unis. Tout ne va pas si bien, et il faut absolument éviter que la société se retourne contre le parti, parce que la Chine, enfin le système politique est de plus en plus un système de parti, et le parti est de plus en plus celui d'un seul homme. Et évidemment, il y a des rivalités, il y a des gens qui sont pas contents, le risque est quand même assez important. Donc le nationalisme montrait également aux pays étrangers qu'on est prêt à tout, qu'on est prêt à chatouiller un peu l'Inde sur ses frontières, qu'on menace Taïwan, que l'armée chinoise se développe beaucoup. Ça montre aussi, oh attention, un dérapage serait vite arrivé. Mm-hmm. Donc nous avons des ennemis, on peut déraper. Mm-hmm. Faites attention à nous, mm-hmm. nous sommes très puissants. Mm-hmm.
Alors, réponse des Occidentaux ?
Eh bien, les Occidentaux qui disent avoir pris la mesure de l'affront. Hein. Écoutez, Dominique Raab, il est ministre des Affaires étrangères britannique. C'était hier, à Londres.
Lorsque la Chine a imposé pour la première fois la législation sur la sécurité nationale, elle a déclaré que c'était pour apporter une certaine stabilité à Hong Kong. Mais ce qui ressort des actions aujourd'hui, c'est qu'elle a clairement été conçue pour écraser l'opposition politique. Nous travaillerons avec tous nos partenaires internationaux pour nous assurer que la Chine est à la hauteur de ses responsabilités et obligations internationales qu'elle a acceptées. Nous ne détournons pas notre regard quand les droits et l'autonomie du peuple de Hong Kong sont bafoués.
Bertrand Badie, nous ne détournons pas notre regard quand les droits et l'autonomie du peuple de Hong Kong sont bafoués. Ils se moquent un peu de nous quand même, non, Dominique ? Parce que quelles sont les sanctions ? Quasiment rien.
Parole. L'Union européenne, puisque la Grande-Bretagne n'en fait plus partie, même chose, c'est-à-dire beaucoup de paroles, mais en même temps la signature de ce très important traité avec la Chine sur les investissements. Et d'une façon générale, les États-Unis...
Dont un ressortissant a été arrêté, un avocat américain, c'est un symbole aussi.
Absolument.
C'est une provocation supplémentaire.
Il n'empêche que nous avons, jusqu'à encore quelques jours à la tête des États-Unis, quelqu'un qui aime montrer ses muscles.
Oui, mais
la musculation en la matière a été extrêmement limitée. Alors pourquoi ? Il y a trois raisons. La première raison... c'est qu'il faudrait un jour comprendre, j'aimerais bien avant que je ne disparaisse de cette terre, que les sanctions, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça n'a marché nulle part.
Pourquoi ça ne marche pas parce qu'on est mondialisé ?
Parce qu'on est mondialisé, parce qu'on est interdépendant, parce que la sanction est perçue comme un acte agressif qui a plutôt tendance à rapprocher les gouvernés des gouvernants. Et il y a des instituts très sérieux qui ont fait des études très précises qui montrent que les sanctions, ça marche à peu près à 10% des cas.
Qu'est-ce qui marche
alors ? Oui, attendez, ça c'est une première raison.
La deuxième raison,
c'est qu'on est dans une économie intégrée. Et que dans cette économie intégrée, la marge de manœuvre est extrêmement faible. Et surtout, troisième raison, il se produit en ce moment un phénomène que l'on ne met pas suffisamment en évidence, qui est la régionalisation des intégrations économiques. On n'a pas suffisamment parlé du RCEP.
C'est quoi le RCEP ?
Alors, c'est
nous sommes des Béotiens.
C'est ce traité d'intégration, Regional Comprehensive Economic Partnership, c'est-à-dire, je sais bien qu'il faut que je vous parle en anglais, et qui se caractérise par une très très forte intégration des économies asiatiques et jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dont l'Inde s'est retirée, mais surtout dont les États-Unis ne font pas partie. Ouais. Donc il se crée un phénomène de gigantisme économique à travers la formation de cette zone, et qui fait que les nouveaux équilibres économiques laissent très très peu de manœuvres, d'autant que, et je vous promets de m'arrêter après ça, la Chine, voyant l'évolution du contexte international, des sanctions, des hostilités, du nouveau protectionnisme, retourne vers son marché intérieur et essaye de trouver dans le marché intérieur les compensations aux risques de perte de marché extérieur. Résultat, la sanction, là-dedans, ça ne sert à rien. Puis n'oubliez pas non plus quand même que rien que Hong Kong, les échanges Hong Kong-États-Unis, je parle sous votre contrôle, c'est 66 milliards de dollars par an. Alors, on ne va pas toucher à un tel pactole, surtout dans